L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay, Ghislaine David. Mens sano in corpore sano, disait le poète romain Juvénal. Est-ce ce à quoi aspirent les écrivains quand ils s'adonnent régulièrement à une pratique physique, à un esprit sain, dans un corps sain? Qu'en est-il d'Emmanuel Carrère, écrivain et scénariste, quand il suit entre autres cours ceux d'Alexandre Onfroy, professeur de yoga Iyengar à Paris, et dont nous entendrons plusieurs fois la voix tout au long de cette conversation. Bonjour Emmanuel Carrère.
Bonjour.
Aujourd'hui, tout le monde fait du yoga, mais vous, vous avez commencé il y a près de 20 ans. Comment est-ce arrivé dans votre vie ?
Après avoir fait pas mal d'arts martiaux, ayant commencé par faire du karaté, puis du tai chi chuan pendant une dizaine d'années, et puis à un moment, je suis passé au yoga, pour des raisons d'ailleurs un petit peu anecdotiques, c'est tout ça, c'était pas vraiment un choix, c'est que j'ai déménagé loin du cours de tai chi chuan que j'aimais beaucoup, je n'en ai pas retrouvé un aussi bien, et j'ai commencé à faire du yoga, et ensuite j'ai plus arrêté parce que je ne sais pas si j'arrêterai d'ici la fin de ma vie, mais l'avantage, c'est qu'on se dit que c'est un truc qui peut vous accompagner absolument toute la vie.
Diriez-vous que le yoga est un sport ?
C'est plus qu'un sport, disons. C'est une discipline physique absolument formidable, dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. La pratique purement physique, proche du sport, de choses comme ça, c'est une espèce de premier étage d'une sorte de tour qui en comporte pas mal. Le yoga a été codifié, je ne sais pas, il y a 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ, par un personnage plus ou moins mythique qui s'appelait Patanjali. Il y a un petit volume comme ça qui s'appelle les Yoga Sutras, qui disent ce que c'est que le yoga. Et le second sutra de Patanjali dit « Le yoga, c'est la cessation des fluctuations mentales. C'est ça que ça vise, le yoga. » Alors, la cessation, c'est peut-être une chose un peu ambitieuse, bien que le yoga est une ambition maximaliste, mais il est certain que, je veux dire, qu'on passe quand même le plus clair de notre activité mentale à sauter d'un truc à l'autre à toute vitesse dans une espèce de centrifugeuse ininterrompue. Et que déjà, le yoga a comme visée de calmer un petit peu ça, de réduire l'amplitude quoi, de ces espèces d'oscillations mentales perpétuelles. Et ça se fait au départ par la pratique physique. Et petit à petit, en s'affinant, elle a cet effet sur le mental. Ensuite, le yoga, c'est quand même une espèce d'exploration des processus de la conscience. Ça commence par être une exploration des processus du corps, et petit à petit, ça travaille sur l'interface entre le corps, la conscience, et ensuite c'est sans fin. C'est comme la montagne, si vous voulez, vous pouvez être complètement dans la vallée, vous savez que, parce qu'il y a des cartes, il y a des alpinistes qui l'ont fait, qu'on peut monter jusqu'à, qu'on peut escalader l'Everest. Il y a une espèce d'Everest du yoga qui est l'éveil, tout ça. Je pense que ça ne nous sera pas donné dans nos vies, enfin moi ça m'étonnerait. Mais tout de même, c'est à ça que ça vise. Alors, moi, personnellement, dans la montagne à vache, ça me suffit amplement. Et donc, je pense que dans le meilleur des cas, je peux arriver dans le yoga à quelque chose qui soit l'équivalent de la montagne à vache. Mais c'est déjà mieux que d'être absolument au fond de la vallée.
Mais ça fait 20 ans que vous en faites, à peu près. Donc, vous avez dû progresser. Et vos motivations ont dû changer.
Il y a quelque chose de très agréable dans le yoga. C'est que même, par exemple, vous voyez des postures dont on se dit... À un moment, mais je veux dire, même pas en rêve, je ferai jamais ça dans ma vie. Bah, si on persévère, à un moment, on s'aperçoit que oui, on les fait, que ça vient assez naturellement. Mais ce qui vient naturellement et ce qui est l'intérêt du yoga, c'est pas seulement, disons, ce qu'on voit extérieurement, c'est de savoir exécuter telle posture, mais c'est toute la sensation physique et petit à petit les effets mentaux que procure l'exécution de ces postures.
Alors, est-ce que vous avez toujours fait le même type de yoga ? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs écoles de yoga.
Il y a l'Ashtanga, qui est un yoga très athlétique, qu'on appelle le Vinyasa, qui est un yoga assez proche de l'Ashtanga, mais qui insiste énormément sur les enchaînements, le passage très, très fluide d'une posture à l'autre. Et il y a celui qui s'appelle le yoga Iyengar, qui à certains égards c'est un yoga un peu fondamentaliste ou intégriste, c'est-à-dire c'est très ou dit autrement, c'est un peu un yoga pour obsessionnel, c'est-à-dire pour moi ça me convient très bien. C'est un truc où vous mettez des années à apprendre exactement comment on place la tranche du pied, comment on répartit le poids du petit orteil jusqu'au talon. Enfin c'est un truc dit comme ça, ça a pas l'air très marrant, hein. Mais la réalité, c'est que ça l'est. Moi, je sais que l'Iyengar et le Vinyasa sont deux choses qui me plaisent beaucoup. Plus on fait du yoga, plus on aime faire du yoga en général. Mais si vous voulez, on a l'impression quand même, petit à petit, d'acquérir des vues plus larges et plus justes sur soi-même, sur son corps, sur sa conscience, et petit à petit, par extension, sur la vie.
Avec les mains, une fois encore, dégager la chair des fessiers vers l'arrière et l'extérieur. Un instant, pressez les bouts des doigts au sol, détendez les jambes, détendez les genoux, les chevilles, redressez à nouveau la cage thoracique, redressez les tailles, réouvrez cette cage thoracique, creusez et détendez les aines, laissez les aines s'absorber. Voyez comment, puisque nous sommes soutenus par nos bras, puisque la cage thoracique est ascendante et pleine d'air, hein, créez de l'espace pour l'air, ouvrez-la comme si c'était un ballon qui allait nous porter. Ce ballon de la cage thoracique va allonger les tailles, le soutien des bras va permettre la détente des aines et du bassin. Pivotez le buste entier en étirant les tailles frontales, le devant du buste s'étire. Allez vers l'avant graduellement en pivotant sur les aines postérieures. Creusez les aines vers le sol. Puis posez les mains devant vous et expirez, étirez les bras, glissez les mains vers l'avant.
Alors parlons du corps justement. Au yoga, on fait une sorte de paramétrage géométrique, c'est-à-dire que le corps est un objet qui est mis en espace, qui est appréhendé par des données géométriques comme l'horizontalité, la verticalité, l'alignement, le centre.
En fait, il y a une recherche d'équilibre dans le yoga et qui fait qu'on ne doit jamais, enfin, qu'il faut équilibrer entre le haut et le bas. C'est-à-dire, si vous tirez le plus possible vers le ciel, il faut aussi vous enraciner le plus possible vers la terre. Pareil pour la droite et la gauche, pareil pour l'avant et l'arrière. Petit à petit, par exemple, on acquiert une conscience plus riche, plus fine de l'arrière du corps qu'on connaît pas très bien. Il y a un truc qui, je me souviens quand je faisais du yoga au début, il y avait dans les instructions que donnent certains professeurs, il y avait, mettons, saisissez l'arrière de vos mollets. Au début, je croyais qu'il fallait les prendre avec la main. Et en réalité, non. Il s'agit de saisir par la pensée, de rendre consciente des parties du corps qui, au début, ne le sont pas tellement. Et petit à petit, on affine la conscience de parties du corps. Et ensuite, la conscience de la conscience.
Alors, je lis quelques lignes que vous avez écrites dans une préface concernant le yoga. On s'assied en tailleur, on se tient le plus droit possible, on étire la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à l'occiput, on ferme les yeux et on se concentre sur sa respiration. Inspiration, expiration, c'est tout. La difficulté est justement que ce soit tout. La difficulté est de s'en tenir à cela. Parlez-nous un peu de cette concentration, justement.
Alors, ce que je décrivais là, c'est, disons, les rudiments de cette pratique qu'on appelle la méditation. Hein. Il s'agit effectivement de s'asseoir en se tenant aussi droit que possible et en prêtant attention à sa respiration. Et petit à petit, d'une part, il y a une espèce d'apaisement mental que procure l'apaisement de la respiration. Et puis, ça favorise l'observation de ces fluctuations mentales dont on parlait tout à l'heure. Si on l'entend de façon maximaliste, d'arrêter ces fluctuations mentales, et de façon plus modeste, celle à laquelle on a accès, diminuer un petit peu cette agitation mentale. Un petit peu, c'est déjà énorme.
Alors justement, pendant les cours et les séances de yoga, est-ce que des idées de texte peuvent vous venir? Est-ce que vous pouvez laisser votre esprit aller vers du texte? Ou est-ce que vous êtes rivé sur la séance?
Arriver sur la séance, on aimerait bien l'être. Ça veut dire être capable d'être vraiment attentif à ce qui se passe. Et il vaudrait mieux être rivé, comme vous dites, à ce qu'on est en train de faire, plutôt même que de penser à un livre qu'on aimerait écrire. Dans ces cas-là, penser à un livre qu'on aimerait écrire, c'est une pensée parasite, il faut bien dire. Il vaut mieux y penser quand on est en train de l'écrire. Il vaut mieux être en train de faire ce qu'on fait.
Mais est-ce qu'il y aurait plutôt de la continuité ou de la discontinuité entre l'écriture et le yoga ?
Il y a une continuité dans la mesure où, malgré tout, ça favorise la concentration. On saisit peut-être un petit peu, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, comme on saisit des parties du corps, on saisit peut-être un peu plus, ou on canalise peut-être un peu mieux des courants de pensée.
Vous dites aussi que l'écriture est une activité sans témoin. C'est une formule qui revient souvent chez vous. Est-ce que vous diriez que le yoga en est une aussi ? Est-ce que la solitude est la même ?
Quand on fait du yoga dans un groupe, dans un cours, il y a tout de même une espèce de dynamique de groupe, et qui peut être très précieuse d'ailleurs. Parce que dans un groupe, ce qui peut être intéressant, c'est de pas seulement prêter attention à son propre corps, mais à celui des autres. C'est ce que sait faire un bon professeur de yoga, qui est extrêmement attentif à ses élèves ou étudiants, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et qui souvent... Enfin, pour certains en tout cas, connaissent les corps de leurs élèves mieux qu'ils ne les connaissent eux-mêmes, savent où ils sont, sur quoi ils butent, où ils coincent. Ce savoir-là, chez certains professeurs ou maîtres de yoga que j'ai rencontrés, dont j'ai suivi l'enseignement, est quelquefois quelque chose de très impressionnant.
Et comment vous articulez le détachement quand même que prône le yoga et une forme d'empathie ?
Vous pouvez assez facilement dire une chose et son contraire du yoga, c'est-à-dire que c'est à la fois le détachement, si, oui, mais c'est en même temps le plus grand enracinement possible, si vous voulez. Dès que vous cherchez quelque chose, il faut chercher la chose inverse en même temps. Si vous faites un étirement dans une direction, il faut immédiatement le faire dans l'autre en même temps. Il faut toujours rechercher deux choses à la fois qui paraissent contradictoires. C'est comme s'il fallait qu'à la fois que vous poussiez et ouvriez une porte. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on découvre petit à petit, cette espèce de, à la fois de tirer la tête le plus possible vers le ciel et en même temps d'enraciner le plus possible les pieds dans le sol. Vous parliez de centre, mais il y a un mouvement centrifuge et un mouvement centripète, c'est-à-dire on va vers le centre et en même temps, ce centre est censé rayonner vers la périphérie et on est très attentif à la périphérie.
Imaginez que les jambes terminent très haut dans le bassin. Les jambes ne s'arrêtent pas aux shorts. La jambe monte haut dans le bassin. Et quand vous agissez sur la jambe, vous agissez à l'intérieur du bassin également. Quand vos deux jambes qui finissent très haut dans le bassin, sont agis de cette façon, observez la colonne vertébrale. Comme tout à l'heure, du périnée, de la pointe du coccyx, étirez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Pas de rétrécissement du devant ni de l'arrière de la colonne vertébrale. Allongez le devant de la colonne vertébrale, du pubis jusqu'à l'échancreur claviculaire. L'arrière de la colonne vertébrale, de la nuque jusqu'à la pointe du coccyx. Et aller dans un sens et dans l'autre, en inspirant allongé ascendant, en expirant allongé descendant. Et vous observez comme si vous aviez un pouce qui passe le long de cette colonne. Est-ce que le pouce va buter ou bien contre une vertèbre qui sort, ou bien contre une vertèbre qui est en creux ? Vous avez l'action ? Ni creux, ni bosse.
On recherche aussi à la fois l'effort et le confort. C'est-à-dire qu'une posture de yoga doit à la fois être le fruit d'un effort et d'un effort très soutenu et qu'on ne relâche pas, et en même temps, ça vise à être confortable. Et c'est aussi un équilibre à trouver. Et qui n'arrête pas de changer. Enfin, c'est un équilibre très, très... ça s'affine aussi. C'est très... C'est quelque chose de très ténu et qui se dégrossit et qui ne cesse de se dégrossir.
C'est ce que certains professeurs disent quand ils disent « devenez la posture ».
Alors ensuite, il y a les postures. On est plus ou moins doué pour certaines postures. Le même professeur dont je vous parlais tout à l'heure dit de certaines « Ah bah oui, ça pour toi, c'est facile, tu es né dans cette posture ». Il y a des postures qui sont différentes d'une personne à l'autre, qu'on fait assez facilement, ce qui d'ailleurs peut être un obstacle. Et votre non-souplesse est quelque chose, enfin disons, une base sur laquelle travailler,
qui est tout aussi satisfaisante qu'une grande souplesse. Le fait d'être très souple, comme on dit, hyperlaxe, ça peut être un handicap dans le yoga, exactement comme d'être raide comme un passe-lacet.
Alors venons-en maintenant aux postures. Y a-t-il des postures particulières qui vous semblent mieux que d'autres servir l'écriture, des sensations précises que vous allez chercher, ou autrement dit, des postures que vous aimez particulièrement faire ?
Alors, évidemment, les postures qu'on aime particulièrement faire, il faut s'en défier un petit peu. Il faut évidemment chercher à faire, se forcer un peu à faire celles qu'on n'aime pas faire. Parce que si vous faites que celles que vous aimez particulièrement faire, vous allez uniquement dans une direction. Or, encore une fois, le yoga, ça consiste à aller dans les deux à la fois. C'est comme aussi pour le tai chi, vous voyez, qui est supposé être pratiqué lentement. C'est tout à fait faux. Il faut aller vite et lentement. Le tai chi, ça se pratique vite et lentement. C'est-à-dire que la même séquence de mouvements, dont disons une exécution moyenne, fait disons un quart d'heure, 20 minutes. Idéalement, vous devez pouvoir la pratiquer en une heure et c'est une forme de méditation. Et vous pouvez pouvoir la pratiquer en 3 minutes et c'est Bruce Lee.
Bon, et au yoga, il y a moins de différence de rythme comme ça.
Oui, ça c'est vrai. Alors, il y a des pratiques de yoga qui sont, on le disait tout à l'heure, plus rapides dans les enchaînements. Le vinyasa favorise une espèce de yoga où les postures se succèdent, pas nécessairement très vite, mais en tout cas dans une espèce de fluidité et où on travaille énormément l'espace entre deux postures.
Et vous donc, quelles sont les postures vers lesquelles vous aimez aller ?
Le lotus, mais très agréable. La posture sur la tête, mais très agréable.
Est-ce que vous avez su la faire tout de suite ?
Non, bien sûr, on met un moment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une posture qui petit à petit s'allège, puisque au début, vous mettez beaucoup de poids sur la tête. Et donc, c'est comme si vous tassiez un peu la colonne vertébrale et vous vous sentez un peu écrasé. Et puis petit à petit, vous arrivez à tirer le bas du corps, les jambes, tout ça vers le haut, et la tête... la tête cesse de toucher le sol et à ce moment-là, ça commence à être vraiment un étirement et que ça devient quelque chose d'agréable.
Et vous finissez par vous envoler ?
Non, justement pas. Justement pas. Il faut que vous restiez aussi bien, que vous adhériez bien au sol.
Est-ce qu'il y a des postures que vous aimeriez faire, que vous n'arrivez pas encore à faire et qui sont des objectifs ?
Je pense pas à des particulières. Si vous regardez des manuels de yoga, y compris des trucs faits par des grands, il y a le classique manuel de Monsieur Iyengar qui est qui a donné son nom à cette forme d'enseignement, pas de yoga mais d'enseignement du yoga. Vous voyez les postures exécutées par Monsieur Iyengar. Il y a des trucs dont vous dites mais comment on fait ça quoi. Et bien sûr, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on saura le faire, mais on peut s'en rapprocher ou s'en approcher même si peu que ce soit. Ça veut dire qu'il y a une toute petite perception différente ou un tout petit endroit du corps ou une articulation ou un truc comme ça que tout à coup on saisira un petit peu mieux.
Est-ce qu'il y a des postures effrayantes pour vous ?
Non, effrayante, non, impressionnante, oui.
Posez les épaules vers l'arrière, tadasana, la montagne. Soyez stable comme une montagne. Voyez la montagne, il y a une couverture de gravité, le poids par l'extérieur. Mais cette montagne, il y a un tigre, donc l'intérieur est vivant. Créez de l'espace, créez de l'espace à l'intérieur de vous. Un tigre, dit-on, prêt à bondir. Donc vos jambes doivent être prêtes à bondir. Inspirez, sautez.
Alors on méconnaît en général un aspect du yoga qui est pourtant très important, qui est le rapport au langage et à la précision des termes et des descriptions anatomiques. Est-ce que ce rapport au langage a développé chez vous de nouvelles approches, de nouvelles exigences, voire un idéal de précision ?
Alors ça, c'est une chose aussi qui varie un peu selon les écoles de yoga. L'école Iyengar dont on parlait tout à l'heure, et que je crois que les extraits que vous passez aussi sont des extraits du cours d'un professeur d'Iyengar. Le yoga Iyengar est très verbal, accompagne énormément, dans les cours en tout cas, accompagne et soutient verbalement ce que font les élèves. Évidemment, ça réclame un langage de plus en plus précis, qui est un langage anatomique. Je ne sais pas combien on a d'articulations dans le corps, je crois 300 ou 400. Au début, vous dites l'articulation de l'épaule. Bon, l'articulation de l'épaule, mais enfin ensuite, ça commence à devenir beaucoup plus fin. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'articulations qui s'occupent de l'épaule. Et il s'y ajoute un truc, c'est que souvent, dans certaines écoles, et dans l'école Iyengar, comme on est bien obligé d'être précis, on en vient à donner les noms des postures en sanskrit. Ce qui fait que vous vous retrouvez finalement à l'usage, à force d'habitude, à connaître par cœur un certain nombre de mots sanskrit qui désignent des trucs très très précis. Alors, il y en a beaucoup qui, heureusement, ont des dénominations simples, imagées, tout ce qui sont souvent des noms d'animaux. Vous dites la posture, je ne sais pas, du chien, du corbeau. Ça existe pareil dans le tai chi, dans les arts martiaux chinois. Vous faites beaucoup de trucs avec des mouvements d'oiseaux, des choses de ce genre. Mais oui, le langage est un langage très précis, très rigoureux, a une place importante dans l'enseignement du yoga. De toute manière, c'est vraiment une école de précision, le yoga.
Ces deux lignes à l'arrière de vos jambes, redéfinissez-les, réélargissez chacune. Revenez au devant, refaites la même chose au devant. Le fait d'avoir bousculé un peu nos corps dans des postures un peu intenses, quand vous revenez, vous avez gagné en liberté. Un peu de liberté dans le bassin, un peu de liberté dans le souffle, dans le dos, dans le ventre. Profitez de cette liberté pour accueillir un geste nouveau.
Mais en tout cas, il y a une espèce de soutien qu'apporte la parole. Ça porte, ça accompagne, ça précède. Ça... Alors, il y a une part importante d'injonction. Hein. Ces injonctions peuvent être très marrantes. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, d'avoir entendu qu'il y a un professeur plutôt débutant et qui a un très grand enthousiasme et que j'avais entendu dire « Bon, avancez vos jambes vers l'arrière ». Et c'est le genre de choses qu'on fait en yoga.
Des postures de défi et des postures contradictoires.
Oui, comme s'il fallait à la fois tirer et pousser. Enfin, quelle que soit la direction dans laquelle on aille, il faut aller en même temps dans la direction opposée.
Détendez le bassin pour faire ça. Détendez le ventre. Détendez le diaphragme. Hein, reconstruisez votre posture à partir du pied puis de la jambe. On est radical en yoga. Et les racines sont... nos jambes, détendez les fesses, détendez le bassin, détendez tout ça. Pour laisser l'ouverture de l'arrière de chaque jambe changer, oui, et ça crée une rotation. Quand on nous dit tourner les cuisses vers l'intérieur, c'est ce qui se passe. Tourner le haut devant des cuisses vers l'intérieur, rouler. Hein, ça aide à élargir l'arrière des jambes. Ce sont des basiques, mais on y revient. Et si vous observez, on est de plus en plus précis. Vous y revenez une année sur l'autre, vous avez de plus en plus de précision. Vous découvrez que tout à coup, il y avait un rideau qui n'était pas ouvert sur cette partie de la jambe. Et quand vous l'ouvrez, eh bien derrière, vous découvrez une grande partie du bassin, de la colonne, du ventre. La cuisse est à l'image du ventre et du dos. Du haut de la cuisse au genou, vous avez en miroir quasiment hein, ce qu'il y a du bassin au diaphragme. Donc, élargissez, ouvrez ces rideaux derrière. Puis élargissez le milieu, à partir du milieu du dos, élargissez le dos.
Vous rejetez la dimension spirituelle du yoga, elle ne vous intéresse pas.
Ah non, pas du tout. J'aime pas le mot spirituel et j'aime pas non plus tout l'espèce de patois New Age qui entoure le yoga. Vous lisez les Yoga Sutras de Patanjali, c'est une espèce de cartographie de la conscience et des niveaux de conscience qui peuvent être atteints, qui est très très impressionnante. Alors, une chose, la grande partie de tout ça, on ne connaît l'existence, vous ou moi, en tout cas moi, que par oui-dire. On sait, d'après les récits des voyageurs, on sait que ça existe. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y aura jamais accès. Mais il est important de savoir que ça existe et que si on fait du yoga, on s'engage, même si on n'y fera que quelques pas, dans un sentier qui mène extrêmement loin et qui mène à un degré de connaissance de soi-même et du monde dont on n'a pas idée. Quoi.
Est-ce que vous auriez envie d'écrire quelque chose sur le yoga ?
J'y ai souvent pensé. Peut-être que je finirai par le faire un jour. Il y a beaucoup de livres sur le yoga qui sont des livres écrits dans une position de maîtrise, qui n'est évidemment pas du tout la mienne. Et beaucoup de livres sont aussi des livres techniques. J'aimerais bien un jour essayer d'écrire quelque chose aussi, aussi simplement que possible sur l'expérience que, je peux en avoir. C'est important de savoir un tout petit peu de quoi il retourne et ce que ça peut être. Même si, encore une fois, on n'en a pas d'expérience de première main et on a peu de chance d'en avoir, le fait de savoir quelle est la visée du yoga, dans quelle direction ça va, dans quelle direction on tire la flèche, c'est important.
Et si vous ne faisiez plus de yoga, que feriez-vous ?
Je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de tai chi à un moment donné, que j'ai arrêté d'en faire, et j'ai toujours pensé qu'à un moment, plus tard, si Dieu me prête vie, j'en referais, et que je trouverais ça très intéressant de, si vous voulez, ça fait 20 ans que j'en fais plus, mettons si j'en refais demain ou dans 5 ans, de savoir qu'est-ce qui subsiste des 10 ans de tai chi après 20 ans d'interruption. Je suis sûr quelque chose. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est stocké dans une mémoire du corps, de la conscience, tout ça. Et je serais très curieux de savoir ce que c'est de reprendre une discipline comme ça, à un autre niveau, tout simplement parce qu'on est, on n'a plus le même corps, on est un autre, quoi. On est non seulement plus vieux, mais différent. Ça, c'est une expérience que j'aimerais bien faire.
Quitte à reprendre le yoga après.
Oui, ça n'empêche pas. Puis je veux dire, c'est quand même des disciplines assez proches. Hein. La différence, c'est que le tai chi est un art martial.
Merci Emmanuel Carrère.
Merci Nathalie Azoulay.
L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay. Prise de son, Frédéric Quérou. Mixage, Benjamin Vignal. Réalisation, Ghislaine David. Samedi prochain, rendez-vous avec Cécile Coulon et la course à pied.